La pédophilie, c'est un terme générique qui est utilisé dans beaucoup de milieux, qui correspond en fin de compte à ce que les professionnels de santé définissent comme une attraction exclusive envers les enfants prépubères. Classiquement, c'est la définition. Maintenant, ce qui est en jeu, c'est plus large que ça, parce qu'il s'agit des comportements abusifs et agressifs envers les enfants, et qui sont faits par des gens qui ne sont pas nécessairement des pédophiles au sens clinique. Il peut y avoir des gens qui commettent des abus sur des jeunes qui sont un peu plus âgés, qui ont déjà fait la puberté. Mais tous ceux qui vont abuser d'enfants prépubères ne sont pas nécessairement pédophiles au sens strict, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas attirés exclusivement envers les enfants. Vous avez par exemple l'inceste, qui est une des grandes problématiques. Ce sont souvent des gens qui sont en couple, en relation avec quelqu'un, mais qui vont abuser d'un enfant. Alors génériquement, on va dire, ah, c'est des pédophiles. Non, non. Ce sont des gens qui ont eu un comportement abusif envers les enfants, qui ont commis un acte de nature pédophilique, mais ne peuvent pas être diagnostiqués comme pédophiles en tant que tels, parce que pour être diagnostiqué comme ça, il faut bien comprendre le critère d'exclusivité de l'attirance et d'attraction pour les enfants prépubères. Mais ce qui est en jeu dans l'Église et dans beaucoup de lieux, c'est l'agression sexuelle de l'enfant, c'est-à-dire le comportement abusif, agressif sur le corps de l'enfant, qu'il soit de 0 à 18 ans.
On est un peu saisi de vertige depuis quelques années face à la multiplication des affaires, des révélations d'affaires, évoquant parfois des cas récents, parfois des cas plus anciens. En même temps, cette libération de la parole, elle fait aussi partie de ce que l'Église doit encourager. Comment l'Église peut-elle accompagner cette libération de la parole qui semble un mouvement inexorable, mais qui en même temps se fait de façon parfois très violente et traumatisante?
Il faut que l'Église développe une aptitude à l'empathie de manière profonde, qu'elle saisisse qu'est-ce que ça demande à une victime pour oser la parole. Il faut comprendre ces mécanismes-là, parce que je pense que quand on arrive à les comprendre, on peut saisir que c'est pas si facile que ça de libérer la parole. Comprendre les mécanismes de honte qui ont été imposés, la souillure qui a été imposée au corps, le silence qui a été imposé, la non-écoute de la parole, parce que parfois les victimes ont essayé des fois de parler. On voit bien que les enfants peuvent tester pour voir s'ils vont être entendus. Et si tout de suite on a renié leur parole en disant « Mais non, tu racontes des bêtises, ou il faut pas dire des choses comme ça », ou ainsi de suite, ils vont se replonger dans le silence. Et plus ils vieillissent, plus ils ont des choses à perdre en termes d'image, de respectabilité, de construction d'eux-mêmes, ils construisent des familles et autres, tout ça. Et plus on a de choses à perdre, plus ça devient difficile de parler. Donc il faut bien se rendre compte de ce que ça demande. Moi, je me rappelle toujours de cet homme, un homme d'une cinquantaine d'années, qui me disait, mais au moment où on atteignait la prescription des faits, j'étais encore à me demander comment j'allais en parler à mes parents. Il faut bien percevoir qu'est-ce que ça veut dire pour une victime d'oser la parole. Tout ce qu'elle a à perdre, tout ce qu'elle a à dire, c'est pas de dire simplement, oh voilà, on m'a volé 50 euros, ou c'est pas ça. C'est vraiment, on m'a souillé, on a bafoué mon corps, on ne m'a pas respecté, je me suis trouvé dans une situation d'impuissance, j'ai pas été reconnu. Et alors, certains peuvent porter la culpabilité que leur agresseur leur a transmise. Parce que l'agresseur va leur dire, par exemple, ah ben, ce qu'on a fait, c'est pas bien, où ça restera notre secret. Donc ils incluent la victime dans le comportement agressif, et certaines victimes, pendant très longtemps, peuvent porter une culpabilité qui n'est pas la leur. Donc c'est pour ça que l'Église doit vraiment prendre avec patience un apprentissage de l'écoute qui arrive à se mettre en bonne balance avec toute la souffrance de l'autre, et bien voir qu'est-ce que ça lui demande comme effort pour pouvoir oser la parole. Simplement, quand on est conscient de ça, on peut s'asseoir patiemment et écouter l'inaudible.
Jésus s'est incarné dans le monde d'abord comme un enfant. C'est un phénomène assez extraordinaire dans l'anthropologie des religions. Est-ce que du coup le christianisme a une mission particulière, prophétique, non pas simplement à l'échelle de l'institution de l'Église, mais à l'échelle du monde pour encourager la parole de l'enfant et la sacralité de l'enfant?
Mais je crois que Jésus a un message extrêmement révolutionnaire. Quand on lui demande qui est le plus grand dans le royaume des dieux, il met un enfant au milieu. Et alors, quand on sait que dans la société juive de l'époque, l'enfant n'avait pas nécessairement une valeur très très grande, tant qu'il n'avait pas fait sa bar mitzvah, quand il était, où il devenait un homme de la communauté et autres, l'enfant n'avait pas une valeur supérieure à quoi que ce soit. Il était à peine reconnu comme personne. Donc Jésus prend le contre-pied de ça et met l'enfant au milieu. Et il dit, voilà le plus important dans le royaume des dieux. Et non seulement il dit, voilà le plus important, mais malheur pour celui qui va lui faire du mal, là. Et c'est une des rares mises en garde terribles de Jésus. Il dit, celui qui fait du mal à un de ses petits, là, il faut mieux qu'il aille se jeter avec une meule autour du cou au fond de la mer, là. C'est rare, ces paroles du Christ, qui sont des paroles de brûler en enfer, quoi. Je veux dire, il est plutôt dans la miséricorde, dans le pardon et autres. Mais là, il nous montre toute la sacralité de la personne humaine qui s'exprime le plus clairement dans l'enfant. L'enfant qui est dépendant de tout autre, qui ne peut pas acquérir tout ce qu'il veut par lui-même. Et Jésus dit, mais c'est ça qu'il faut protéger. C'est cette valeur-là, humaine, fragile, qui est à défendre. Et c'est toute la pédagogie divine aussi de s'incarner, l'incarnation de Dieu, d'entrer dans cette chair fragile, d'accepter de dépendre de parents, d'accepter de dépendre d'autres, de se recevoir d'eux autres. Enfin, c'est un mouvement extraordinaire, le mouvement de l'incarnation. Un Dieu tout-puissant, la Bible nous dit, celui qui avait les conditions divines, qui s'est anéanti pour devenir la condition d'esclave. Cette fragilité de la chair incarnée dans le petit enfant nous redit toute la valeur de l'enfant. Et ce trésor qu'est cette vie et cette divinité qui se donne à nous. Donc je pense que là, il y a un vrai enjeu évangélique à faire que l'enfant soit respecté, soutenu, accompagné, protégé contre tout ce qui pourrait chercher à le détruire ou à attaquer son intégrité.
Le déni autour de ces questions est lié à justement une perte du sens de l'incarnation, c'est comme ça que vous l'analysez ?
Tout à fait. Je dis même, quand je travaille avec des auteurs, par exemple, d'abus, ils ont dû anesthésier cette partie en eux-mêmes qui leur permettrait autrement de voir dans l'enfant cette incarnation-là. Et c'est simplement en restituant la personne en face de lui comme une personne sacrée, comme une incarnation du Christ, qu'on peut arriver à faire un déplacement chez l'auteur d'une agression qui est chrétien, hein, j'entends bien, hein, et arriver à ce déplacement de dire « Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Si dans l'Église, on peut aider à reconstruire ce sens du sacré de la personne humaine, on aura fait un grand pas pour rendre toute leur place à ceux qui ont tant souffert de ça, qui ont été considérés comme rien, comme un objet, et non plus comme une personne. Et tout le travail à faire auprès des victimes, c'est ça, c'est de les aider à redevenir des personnes, à passer du statut de victime au statut de survivant, au statut finalement de personne ayant été agressée. Retrouver cette sacralité de la personne humaine. Je pense que c'est fondamental au cœur du pontificat de François, c'est fondamental au cœur de la vie de l'Église. C'est là où est tout le défi par rapport à cette problématique des abus. Il faut vraiment qu'on redécouvre ce sens de la sacralité de la personne humaine.
Vous avez accompagné des dizaines de victimes dans votre activité de psychothérapeute. Vous avez aussi accompagné de très nombreux auteurs d'abus. On en parle très peu de cette question de la réintégration sociale des auteurs d'abus après éventuellement une sortie de prison. Et on parle encore moins de la réintégration des auteurs d'abus dans la communauté ecclésiale. Comment répondre à ce défi qui suscite l'hostilité de beaucoup de gens ? Comment avoir un regard chrétien aussi sur ces personnes ?
En fonction de ce qui était la cause du comportement agressif ou pédocriminel chez l'individu, les personnes ne vont pas présenter les mêmes situations de risque. Il y a des gens qui ont des fortes pulsions pédophiliques et qui ont besoin d'un encadrement très strict, vraiment avec des plans de sécurité où on contrôle les sorties, les entrées, la proximité et autres. Et puis vous avez d'autres personnes qui ont abusé une fois, mais qui n'ont jamais réabusé après et qui ne vont pas représenter le même risque que d'autres. Et donc la capacité à se réintégrer dans la société est beaucoup plus forte dans ces cas-là que pour quelqu'un qui est vraiment ancré dans une pulsion pédophilique très très forte. Donc ce qu'il faut d'abord déterminer, quand on veut évaluer les meilleures conditions pour réintégrer ou réhabiliter un délinquant sexuel, c'est quel est son niveau de risque d'abord. Une fois qu'on sait ça, on essaye de voir quelles sont les conditions de vie qui vont être les plus adaptées pour lui. Parce qu'on s'est rendu compte dans le travail clinique auprès des personnes, c'est plus leurs conditions de vie sont satisfaisantes, moins ils sont à risque de réabuser. Mais ce qui est très difficile à voir, c'est que quand on est stigmatisé ou on a une étiquette agresseur sexuel ou pédophile sur le dos de marqué, ça fait le ménage dans le réseau social. Hein. Des fois dans la famille proche, il y a des gens qui ne veulent plus vous parler. Dans les communautés religieuses, des fois, il y en a qui ne veulent plus en entendre parler de ces personnes-là. Alors il y a tout un défi quand même à dire, ben voilà, non mais derrière le comportement monstrueux, qu'est-ce qu'on va faire de cette personne humaine ? Parce qu'on ne peut pas simplement dans l'Église dire « Ah ben, c'est plus notre problème, on le décharge de l'état clérical, terminé, on le met dehors et puis c'est fini. » Mais non, on rend service à personne, ni à l'Église, ni à la société. Alors on se lave les mains comme Pilate, mais c'est tout, quoi. Je veux dire, ça ne fait pas les choses comme il faut. Comment on peut essayer d'être créatif et chercher à accompagner ces hommes ? Parce que c'est d'abord protéger les enfants que de pouvoir leur offrir à ces hommes des conditions de vie dans lesquelles ils ne vont pas abuser, ils ne vont pas récidiver. Ils ne vont pas recommencer. Donc ça, c'est vraiment un enjeu de prévention, qu'ils aient des conditions qui ne les amènent pas à réabuser. Et puis après, c'est aussi un enjeu pour eux, comme personnes humaines, qui ont un droit à avoir du soin, ont le droit à sortir de leurs problématiques, qui ont le droit d'être accompagnés. On retrouve là-dedans le message de l'Évangile, hein, de la guérison du paralytique, par exemple, en changeant chapitre 5. Va et ne pêche plus, parce qu'il pourrait arriver encore pire après, mais Jésus, bon, le soigne, le guérit, et est là. Et il l'offre à une communauté. Il dit, va te montrer aux autres, reste. Est-ce qu'il y a des lieux, des communautés qui sont prêts à accueillir ces hommes pour leur donner des milieux de vie? Est-ce qu'il y a des tâches qui peuvent leur être confiées, où ils ne vont pas être en contact avec les enfants? Ils peuvent rendre des services encore à l'église, parfois en fonction de l'âge qu'ils ont. Voilà, il faut être créatif, il faut inventer, mais par contre, il faut jamais faire de compromis avec la sécurité des enfants.
Il y a un dernier aspect que je voudrais aborder avec vous, qui sera l'un des thèmes de cette rencontre des évêques à Rome, c'est la notion de responsabilité des évêques. Le langage anglo-saxon parle d'accountability, c'est un terme très difficile à traduire pour le monde francophone. Comment vous pouvez nous expliquer un peu comment cette conception du rôle de vigilance des évêques peut être mieux prise en compte dans le gouvernement épiscopal?
Pour moi, l'expression qui rend le mieux l'expression anglaise d'accountability, c'est la reddition de comptes. C'est-à-dire, il faut être en capacité de rendre des comptes au peuple de Dieu. Et donc, la responsabilité épiscopale, elle est d'abord une responsabilité d'accompagnement des situations, accompagner les gens, accompagner les victimes. Et ça, je pense que les évêques, de plus en plus, arrivent à comprendre aujourd'hui qu'ils sont les évêques, non seulement du prêtre qui a abusé, mais qui sont aussi les évêques de ceux et celles qui ont été abusés. Donc ça, je pense qu'il y a un déplacement qui s'est fait et qui est en train de se faire à l'échelle mondiale dans les épiscopats. Ça commence à rentrer dans une compréhension où les victimes ne sont plus des ennemis qui affrontent l'Église, mais vraiment des membres de l'Église qui sont en souffrance. Donc ça, c'est important. Mais la notion de reddition de compte ou d'accountability en anglais, c'est une difficulté parce que culturellement, les évêques ne rendent pas de compte. Enfin, à Rome, éventuellement, quand c'est des problèmes de foi et de morale importants, mais autrement, ils ne rendent pas de compte. Ils sont patrons chez eux. Donc c'est un changement de culture qu'on leur demande. On dit là, non, sur ces questions-là, on va vous demander des comptes. Dites-nous ce que vous faites comme travail. On n'accepte plus que vous nous dites simplement, on travaille à ces questions-là. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez fait combien de réunions? Qui était présent? Quels sont les sujets que vous avez travaillés? Que le peuple de Dieu demande à ses pasteurs des comptes, je trouve que c'est plutôt sain. C'est pas des brebis qui se laissent mener béatement et sans réagir. Ils sont prêts à suivre un pasteur, mais il faut que leur pasteur leur donne les signes que ça vaut le coup de les suivre. Je pense que ça, c'est fondamental. Et pour ça, il faut qu'ils montrent que leurs actions sont là où sont leurs paroles. Parce que ça, c'est vraiment un défi de cohérence interne et d'intégrité. Et c'est seulement à ce prix-là, je pense, que la confiance va être gagnée.